Ce sont des énigmes et mystères que nous vous proposons cette semaine sur Europe 1, dans les meilleurs moments d'au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand aborde l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie, l'énigme de Glozel.
Bonjour à tous. À la question « Êtes-vous glozélien ou anti-glozélien ?», je suppose qu'une majorité de Français ne saurait quoi répondre. Dans les milieux férus d'histoire et d'archéologie, c'est pourtant une ligne de démarcation très épineuse, un peu l'équivalent dans un autre domaine ou à une autre époque de la question « Êtes-vous dreyfusard ou anti-dreyfusard ?». Alors, si vous n'avez pas encore d'avis sur le sujet, j'espère que d'ici à 14h, je vous aurai donné les éléments pour choisir votre camp.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il fait beau, froid et sec. En ce début de mars 1924, le vallon de Glozel dans l'Allier, on est donc tout près de Vichy, est en train timidement de sortir de l'hiver. Et en ce jour qui va devenir historique, le samedi 1er mars 1924, un jeune paysan du coin, il s'appelle Émile Fradin, il a 17 ans, ce jeune paysan est en train de labourer un champ. Imaginez une grosse charrue tirée par deux vaches, comme on faisait à l'époque. Soudain, on adore ce genre de moment, vous savez, où tout bascule. Soudain, l'une des vaches s'enfonce, mais elle s'enfonce d'un coup et assez profondément dans un défaut du sol. On imagine la vache qui mugit, le jeune homme qui jure, il faut la dételer, l'extraire de là. Émile sonde la petite faille et découvre une fosse aux parois de briques, avec au fond ce qui ressemble à des dalles d'argile. Il en parle bien sûr dans la famille, le soir, à son grand-père, Claude Fradin, et le lendemain dimanche, les voilà qui se mettent tous les deux à fouiller la cavité, et ce qu'ils trouvent là est inouï. Des bouts de céramique, des fragments de poterie apparemment, et puis des outils en pierre, en os, et des ossements humains. Dans les campagnes à l'époque, il n'y a évidemment pas de télé, ça n'existe pas. Il n'y a encore que très peu de radio et peu de téléphone, mais il y a les veillées. Et dans les veillées, on cause, figurez-vous. La trouvaille des Fradins, grand-père et petit-fils, ne tarde pas à occuper toutes les conversations, de sorte que l'institutrice du village finit par entendre parler de la fameuse découverte. Alors elle se renseigne, elle vient voir sur place ce qu'il en est, elle est étonnée par l'importance des vestiges exhumés par les Fradins. Elle fait son devoir, cette institutrice, évidemment, elle va informer qui de droit. Elle écrit à l'inspection d'académie pour signaler la découverte. Et puis elle écrit aussi à plusieurs sociétés savantes. Bref, la nouvelle commence à se répandre. Et début juillet, l'une de ces sociétés envoie sur le terrain deux de ses membres, un procureur et un instituteur en l'occurrence, qui entreprennent de véritables fouilles. Si on peut appeler ça des fouilles, parce qu'évidemment, on est dans les années 20, et ce ne sont pas de grands professionnels qui mènent ces fouilles-là. Ça manque un peu de rigueur, et du reste, ce manque de rigueur, à la longue, va finir par semer pas mal de confusion, et ça pèsera lourd par la suite. Après s'être amplement servi sur le site, nos fouilleurs affirment qu'il n'y a rien là de bien intéressant et ils vont conseiller aux Fradins de remettre le secteur en culture. Ce que font Claude et Émile Fradin. Si ça n'est pas intéressant, ben on recouvre. Sauf que l'instituteur, dont j'estime que le nom ne vaut même pas la peine d'être cité, est un petit malin. Il a l'intention de s'arroger la découverte et il va s'adresser début 1925 à une société savante. Il envoie un rapport qui sera publié par le bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais. Et c'est en lisant ce bulletin qu'un médecin de Vichy prend connaissance de la découverte effectuée tout près de là, donc à Glozel, l'année précédente. Ce passionné d'archéologie va jouer un grand rôle dans l'affaire. Il s'appelle Antonin Morlaix. Au printemps 1925, voici donc Morlaix sur place. Et tout de suite, lui qui connaît surtout la période gallo-romaine, il faut bien le dire, il comprend que ce qu'on a sorti de la fosse de Glozel est bien, bien plus ancien que ça. Ça pourrait, se dit-il, dater du Magdalénien, c'est-à-dire que ça remonterait environ 8-9 000 ans avant notre ère. Le médecin s'entend avec les Fradins pour pouvoir effectuer des fouilles assez frais. Et ces fouilles, elles commencent en mai 1925, elles vont durer plus de 10 ans. Dès le mois de juin, le site reçoit la visite d'une sommité de l'archéologie, Louis Capitan en personne. Vous imaginez, Louis Capitan, l'homme de Combarelle et de Fontgaume, l'ami de l'abbé Breuil dont j'ai eu l'occasion de vous parler à ce micro. Louis Capitan qui du reste viendra visiter Glozel au départ avec beaucoup de curiosité. Il va faire venir ses amis, l'abbé Breuil, on le verra à Glozel l'année suivante, de même que Salomon Reynac, comme également André Vaison de Pradène. Bref, les plus grands noms de l'archéologie préhistorique sont sur le pied de guerre. La presse régionale, puis nationale, puis internationale s'est déjà fait l'écho de la découverte. Et l'on peut dire que le petit village de Ferrières-sur-Sichon, où se trouve Glozel, est devenu du jour au lendemain, et les Fradins avec lui, tout ce petit monde est devenu célèbre. Toi.
Avec un récit qui aborde aujourd'hui sur Europe 1 l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie, l'énigme de Glozel, Franck.
Alors vous imaginez la fantastique aventure pour ce jeune cultivateur qui maintenant a 18 ou 19 ans. En deux ans, ce ne sont pas moins de 3000 objets plus ou moins importants qui ont été extraits de cette cavité découverte au départ par la vache providentielle. Il y a là de la pierre taillée, de la pierre polie, de la céramique, du verre, de l'os, des boîtes cervidées, puis des galets gravés. Et surtout, et c'est là que les choses deviennent sérieuses, surtout des objets, galets, outils, tablettes d'argile couverts d'une très étrange écriture, apparemment alphabétique. Or, tout le monde sait que l'écriture est apparue en Mésopotamie aux alentours de 3500-3300 avant notre ère. Comment expliquer des traces d'écriture en Europe occidentale des milliers d'années plus tôt, si tout ça se confirme, maître du Magdalénien? Si ça se vérifiait, vous imaginez que ce serait un basculement complet des certitudes les mieux établies en la matière. Vous mesurez dès lors les enjeux de la question suivante. Les objets retrouvés à Glozel sont-ils authentiques ou bien est-ce qu'il pourrait s'agir d'une imposture? Les plus grands savants sont bien sûr invités à se prononcer. L'abbé Breuil, je vous l'ai dit, en personne vient sur le site. Il commence par se montrer plutôt favorable à l'authenticité, l'abbé Breuil, jusqu'à ce qu'on mette au jour un galet portant la gravure d'un renne, accompagné de signes probablement alphabétiques. Or, le renne a disparu dans ces régions à la fin du Paléolithique supérieur, donc aux environs de l'an 10 000 avant notre ère. Comment expliquer une telle incohérence? Comment expliquer qu'on est à côté de l'écriture? Breuil commence à se rétracter. Et puis, le scepticisme va gagner dans la communauté historique. Et plus le scepticisme gagne, plus le docteur Morlaix s'affaire à défendre l'authenticité du site. Dans la ferme des Fradins, on a installé un petit musée pour présenter les vestiges au public. En avril 1926, Morlaix commence à communiquer, si je puis dire. Il se risque à publier un article évoquant ouvertement la possibilité d'un alphabet néolithique à Glozel. Alphabet non encore déchiffré, évidemment. Cette fois, ça y est, il va y avoir parmi les savants deux camps de plus en plus opposés, glozéliens contre anti-glozéliens. Le premier camp compte un soutien de poids en la personne de Salomon Reynac, qui adresse un rapport favorable à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est très important, ça, pour Morlaix et les siens. En face, on trouve de plus en plus de mandarins, à commencer par André Vaison de Pradène, qui prétend avoir retrouvé dans des revues de vulgarisation des illustrations d'objets qui pourraient avoir servi de modèle à un faussaire. La polémique commence à enfler, au point de passionner le congrès de l'Institut international d'anthropologie qui se tient à Amsterdam en septembre 1927. On décide à ce congrès d'envoyer une commission internationale à Glozel et elle arrive, la commission, sous la canonnade des gros flashs photographiques de l'époque. Hein, vous savez, ça fait un bruit terrible à chaque fois. Elle arrive en novembre 27. Cette commission, dans son rapport, voudra bien admettre comme authentique un certain nombre d'objets en silex et en céramique, sans exclure du reste qu'ils aient pu être introduits dans les fouilles. Pour le reste, elle conclut, je cite, à la non-ancienneté de l'ensemble des documents qu'elle a pu étudier à Glozel. Ah, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les partisans du site. La voie est désormais libre pour les contempteurs et dans la foulée, Dussault, à l'époque, c'était le grand épigraphiste, l'homme du Louvre, Dussault accuse Émile Fradin de contrefaçon. Ce qui amène le jeune homme en retour, il faut bien se défendre, à intenter un procès en diffamation. Comme par hasard, dans les jours qui suivent, Félix Regnault, un autre grand ponte, le président de la Société préhistorique française en l'occurrence, s'annonce à Glozel. Il demande à visiter le petit musée des Fradins et en sortant, il porte plainte contre X pour escroquerie. Vous allez me dire pourquoi escroquerie ? Eh bien parce que l'entrée du musée est payante, 4 francs, et que les pièces qui sont présentées de l'aveu même de la Commission internationale sont réputées fausses. Alors faire payer pour des pièces fausses, vous voyez. Regnault revient avec les gendarmes qui perquisitionnent chez les Fradins afin d'expertise au départ, mais ça aboutit tout ça à liquider le musée. Émile Fradin est donc inculpé et du coup son procès en diffamation est reporté. Le tour est joué. On ne peut pas s'empêcher quand même dès ce moment de constater une véritable collusion des savants et des représentants de diverses institutions contre les Fradins, Morlaix et autres amateurs qu'ils ne cesseront plus d'écraser de leur morgue. Morlaix riposte en attendant. Il met sur pied un comité des études avec tout de même quelques pointures qui relance les fouilles au printemps 1928 et ce comité, qui découvre de nouveaux vestiges au passage, va conclure, ça, on pouvait s'y attendre, à l'authenticité. Vous voyez un peu le jeu de ping-pong. En attendant, la justice enquête avec tout ce qui a été saisi au musée et le rapport des experts conclut, des experts de la justice, cette fois nommés par le juge d'instruction, les experts concluent que les tablettes portant des inscriptions sont des contrefaçons récentes. Émile Fradin est donc inculpé pour escroquerie le 4 juin 1929. En fait, il va bénéficier d'un non-lieu 2 ans plus tard. Vous savez que la justice a horreur de se mêler de ce genre d'expertise. Évidemment, elle se déclare le plus volontiers incompétente. On peut dès lors reprendre le procès en diffamation. Et la surprise, étant donné tout ce qui s'est passé dans le domaine judiciaire, le professeur Dussault du Louvre est condamné pour diffamation. On a un peu l'impression, d'une partie de ping-pong, c'est un match de tennis dont on compterait les points. À Glozel, Morlaix interrompt ses fouilles en 1936, et vous savez peut-être qu'à partir de 1941, la loi Carcopino est dictée par le régime de Vichy, soumet les fouilles archéologiques en France à l'autorisation administrative. Le site de Glozel ne sera donc plus fouillé avant longtemps, avant 1983 pour être précis.
Révélation ou imposture, il est question de l'énigme du site préhistorique de Glozel aujourd'hui sur Europe 1. Et pour en parler, Franck, vous recevez Marie Labère Delorme qui est archéologue.
Eh oui, alors je viens de vous expliquer que depuis 1941, il faut des autorisations pour faire des fouilles et que, évidemment, les autorités archéologiques n'étaient pas pressées qu'on rouvre cette affaire de Glozel. Quand même, en 83, les choses sont relancées. Cette année-là, le ministère de la Culture, saisi par des élus locaux, accepte de reprendre donc les fouilles de Glozel. Le rapport complet de toutes ces fouilles n'a jamais été publié, mais quand même, en 85, on en a publié une sorte de note synthétique qui fait une douzaine de pages, qui a été rendue publique, et selon les auteurs de cette note, il n'y aurait pas à Glozel de traces de gisements néolithiques, voire paléolithiques, c'est-à-dire encore plus anciens. En vérité, c'est l'occupation médiévale qui serait le mieux représentée sur place. Un site médiéval donc qui aurait été enrichi par la suite de diverses contrefaçons. Ce qui n'est pas très cohérent dans ces conditions, c'est qu'on est en juin 1990, décoré tout de même Émile Fradin, c'était notre petit cultivateur des années 20, vous savez à l'époque il avait 93 ans, pauvre monsieur. Il a été décoré, Émile Fradin, de l'Ordre des Palmes Académiques, donc c'est une reconnaissance ça, ou alors je n'y comprends plus rien. Émile Fradin mourra du reste 10 ans plus tard seulement. Et de nouveau, à ses obsèques, le représentant de l'État lui rendra un vibrant hommage. On a envie de dire qu'on prenne qui pourra. Je suis ravi d'avoir avec nous dans ce studio aujourd'hui une glozélienne en la personne de Marie Labarrère Delorme. Merci beaucoup d'être venue. Vous vous intéressez à cette affaire de Glozel depuis 1985, donc à peu près au moment où on s'est mis à reparler de Glozel, au début des années 80.
Oui, je suis arrivée complètement ignare dans ce site et j'ai été absolument fascinée par les collections qui étaient exposées dans le musée. Je suis repartie avec le livre d'Émile Fradin sur Glozel et ma vie.
Et, oui.
Et j'ai été encore plus, attirée par l'étude de ce site. Il s'est trouvé que j'ai d'abord centré mon intérêt sur l'écriture. Bon, je dirais que c'était peut-être une grosse bêtise.
Non, mais pour les auditeurs, une grosse bêtise, vous voulez dire du point de vue du crédit qu'on peut porter aux travaux menés. Bien ça, sûr. C'est toute la question. Mais si cette affaire, pour ceux qui arriveraient en route, si cette découverte de 1924 à Glozel, donc près de Vichy, a été si importante, c'est précisément parce qu'une partie, une grande partie même des vestiges exhumés portaient des traces de ce qui semble être une écriture. Alors, on va venir sur cette écriture d'ailleurs dans un instant. Vous avez commencé par travailler là-dessus, vous ?
J'ai commencé par travailler sur l'écriture. Ce qu'il y a d'étonnant et de détonnant aussi à Glozel, c'est la présence d'une écriture sur des galets de pierre où elle est juxtaposée avec Lorraine. Et aussi le cervidé.
Donc là, il y a des grosses incohérences dans le temps, disons.
Il y a une anomalie évidente, et de l'écriture aussi sur des tablettes qui sont beaucoup plus récentes, enfin à mon avis, et d'autres objets.
Quand vous dites sur beaucoup plus récentes, de quand seraient-elles ces tablettes ?
Écoutez, moi, à mon opinion, je pense qu'elles sont proto-historiques. Hein,
elles sont
néolithiques finales, mais enfin, elles sont tardives.
7-8 siècles avant notre ère, c'est ça ? Un peu plus tôt ?
Peut-être encore un peu plus tôt quand même.
Oui.
Hein. Elles ont été datées par Henri François de 700 avant notre ère.
Oui, c'est ça.
Pour certaines. Donc je dirais jusqu'à 1000 à peu près. Et en se rapprochant...
Certains font remarquer que les tablettes en question, pour certaines en tout cas, sont en argile crue. Et que donc si elles étaient très anciennes, elles n'auraient pas survécu dans les profondeurs souterraines.
Non, elles ont été cuites, mais à une température assez limitée. Certaines le sont suffisamment, avec une température de 600 degrés, d'autres à 300 degrés. Et ce qui se passe, c'est que dans le sol, elles ont fait comme un vieux tissu, elles ont fusé. Hein. Quand on les a retirées, certaines étaient en morceaux, qu'on a posés sur l'herbe, à côté de la tranchée, d'où la présence de brins d'herbe, dont on s'est moqué par la suite, et
vous
cela a servi d'argument au faux.
Les brins d'herbe sont arrivés donc après, semble-t-il, et les morceaux de les fibres textiles aussi.
Je pense. Hein.
Et c'est donc un ajout sur les tablettes, ça n'est pas endogène en quelque sorte, et ça pourrait, parce que sinon on se dit que si effectivement il y a des textiles et des végétaux modernes sur ces tablettes, par définition elles sont modernes.
Oui.
Mais en l'occurrence, vous dites que ce serait venu après.
Personnellement.
Alors cette écriture, bien des hypothèses ont été formulées. Certains ont essayé d'utiliser des références phéniciennes. On a travaillé sur toute l'interprétation sémitique de ces signes. Il semblerait bien qu'il s'agisse de signes empruntés à un alphabet phénicien, mais alors disposés de façon assez aléatoire et totalement désordonnée sur les tablettes, enfin sur les éléments.
Personnellement, ce n'est pas mon opinion.
Alors voilà, mais expliquez-nous. Vous êtes précisément là pour
Je
ça.
Je pense qu'il s'agit d'une écriture très ancienne, qui n'emprunte pas grand-chose à l'Orient, je dirais, dans sa partie la plus ancienne, c'est-à-dire néolithique finale, voire avant encore, hein, et puis paléolithique. Et cette écriture, eh bien, d'où elle vient, je ne serais incapable de vous le dire. Elle est là et maintenant, c'est tout ce qu'il faut constater. Parce qu'on a quand même quelque chose d'énorme, c'est un fait archéologique. On a sur des galets gravés et polis, parce qu'ils ont chaque fois un biseau poli, donc on s'en servait. Il y a Lorraine et une écriture qui accompagne une inscription. Bon. Il faut le prendre en tant que tel. Et l'un n'a pas été fait plus tard que l'autre. L'écriture n'est pas venue après coup. Et le trait est gravé par un silex, hein, par un outil de pierre. D'ailleurs, il y a eu des analyses qui ont été faites. Je crois que ce sont les analyses d'Oslo vers 1928.
Ah oui, les premières. Oui,
les premières analyses d'Oslo qui indiquaient qu'il n'y avait absolument aucune trace de métal. Hein.
Oui, donc c'est bien gravé à la pierre, ça, personne ne le contestera.
Voilà, c'est fait avec de la pierre.
Est-ce que Lorraine et les signes sont gravés en même temps ? Vous pensez qu'on peut l'affirmer ?
Je pense, parce que, comment dire, la graphie est identique. Hein ? Il y a une unité sur le galet.
Est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui, c'est une question que je pose et j'avoue n'avoir pas de réponse préconçue, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, avec les instruments dont dispose notamment la police scientifique, vérifier que l'instrument de pierre qui a servi à graver le petit renne a servi également à graver les signes alphabétiques. On pourrait peut-être faire
bien
ce
sûr,
genre de travaux.
Bien sûr, je pense qu'il y a des outils modernes qui
permettraient
qui pourraient
de
faire
le savoir,
avancer
oui.
l'étude dans ce domaine-là.
Parce que si l'on admet que le renne a disparu donc à la fin du paléolithique supérieur, ça voudrait dire que nous sommes en présence de signes tracés par l'homme aux alentours de 10 000 avant notre ère. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire.
C'est
une révolution complète dans la conception oui. même qu'on a du processus de dominisation, de développement vers la
oui,
culture.
Oui. Je pense, enfin, 10 000, le renne, c'est ce qu'on estime, hein, pour la disparition du renne. Mais le renne ne s'est pas éloigné, je pense, c'est mon opinion. Hein, d'un seul coup vers le nord, et ça a dû prendre un laps de temps tout de même assez long. Donc il me semble que peut-être vers 8 000, il pouvait encore y avoir, vers 9 000, 8 000, il pouvait y avoir encore des troupeaux de rennes.
Ou il pouvait peut-être y en avoir il pourrait peut-être y en avoir le souvenir, en quelque sorte.
Le souvenir où, vous voyez, les rennes, ils allaient jusqu'aux Pyrénées, en gros. Hein. Bon, il a bien fallu que ces troupeaux remontent. Donc, il y a eu une vague de migration, mais qui se sont sûrement pas faites d'un seul coup.
Je vous lis une phrase empruntée à Jean-Pierre Adam, qui a été un des très grands et célèbres anti-glosélien, on peut
oui,
dire, qui est
oui.
toujours du reste, qui dit que l'abandon d'une écriture utilisée à Glosel, donc à l'époque magdalénienne, dit-il, vous voyez, il ne va pas lui jusqu'au paléolithique supérieur, puis réinventée de toutes pièces à l'identique dans l'Orient méditerranéen quelques 10 ou 12 000 ans plus tard est très improbable. Vous dites-vous que les signes ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas...
Ah, moi je dis que les signes ne sont pas les mêmes et qu'il y a une unité de signes. Il y a aussi une différence de signes entre les galets, que j'ai bien étudié, et les tablettes. Hein. Sur les tablettes, qui sont plus récentes, on voit paraître des signes plus compliqués, des associations assez étonnantes de signes, plus des signes grecs. Hein. Mmh. Donc là aussi, il fallait que le grec existe pour le voir paraître.
Hein. Oui, ça paraît tout ça peu probable.
Mais
oui.
dire qu'une écriture pouvait exister au néolithique final et à l'épipaléolithique n'a pas lieu peut-être de nous étonner. On a tout de même les galets du Mas d'Azil qui ont des signes dessus.
Après tout, hein. oui.
Et il y a aussi... Eh ben,
donc des inscriptions abstraites, disons, oui.
On a tout de même des os gravés avec des signes dans les sites du Périgord. Mmh. Donc cette écriture, elle a bien... une antériorité.
Alors, pour éviter les querelles d'experts et les débats, vous savez, où tout le monde parle sans écouter l'autre, je n'ai invité aujourd'hui de représentants que du camp glosélien, vous l'avez bien compris. Mais comme moi-même, je suis assez sceptique sur la question, je dois le reconnaître, eh bien, je crois pouvoir me faire honnêtement l'avocat du diable et présenter un certain nombre d'arguments anti-glosélien, c'est ce à quoi nous venons dans un instant.
Énigmes et mystères cette semaine dans les meilleurs moments d'au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au site préhistorique du Glosel.
Alors, pour essayer de dater les objets trouvés à Glosel, on a utilisé assez tôt des méthodes de datation. Et puis, très vite, enfin quand je dis très vite, non, plutôt je devrais dire très tard, lorsque les méthodes scientifiques sont apparues, spectrographie, thermoluminescence, datation carbone 14, analyse par activation neutronique, etc. Évidemment, certains se sont dit, mais pourquoi n'en profiterait-on pas? Pourquoi n'essaierait-on pas de voir ce qui s'est passé à Glosel? Les premiers essais de ce niveau scientifique remontent à 1969. Ils sont dus à l'initiative d'un Danois, le professeur Meidal, qui a travaillé grâce aux techniques de thermoluminescence et de carbone 14. Et lui, quand il analyse tout ça, il obtient des résultats qui seraient d'époque celtique, voire gallo-romaine, mais pas plus anciens. En 1974, la datation par thermoluminescence de poterie, cette fois, va confirmer, alors là ça va dans le sens cette fois des gloséliens, l'ancienneté des poteries. On est certain d'une chose, c'est que ce ne sont pas des artefacts modernes. Il ne s'agit donc pas, s'il y a eu imposture, et alors il faudrait bien imaginer de la part de qui, parce que ce serait quelqu'un qui serait resté particulièrement invisible. Mais s'il y avait eu imposture, en tout cas c'était sur des éléments eux-mêmes très anciens. En 1979, 39 datations par thermoluminescence sur 27 objets façonnés permettent d'avoir trois estimations de datation. Pour une partie, c'est-à-dire presque la moitié des objets entre 300 avant et 300 après, on est donc en gros dans la Gaule celtique et gallo-romaine. une période médiévale qui serait centrée sur le XIIIe siècle. Il semble qu'il y ait pas mal d'objets de ce XIIIe siècle. Et puis une période alors plus récente qui serait des objets dus à un faussaire. Sauf que lorsqu'on cherche à définir quels sont les objets en question, entre nous soit dit, dans les rapports, on ne les trouve pas. Enfin, moi, je ne les ai pas trouvés, en tout cas. En 1983, les datations par thermoluminescence réalisées à Oxford vont, elles aussi, du IVe siècle à la période médiévale. Et on va dater également par carbone 14 des fragments d'os. Et là, on est entre le XIIIe et même jusqu'au XXe siècle. Donc, vous voyez que tout ça est quand même assez... Il y a énormément... j'ai envie de dire que dans ce qui a été... Parmi ce qui a été exhumé à Glozel, on a quand même envie de dire qu'il y a un peu à boire et à manger. Une des questions qui se pose évidemment, et elle se pose de façon assez forte, c'est la question de l'unicité du site. Et ça, j'aimerais évidemment, nous allons y venir dans un instant avec Marie Labarrère-Delorme, j'aimerais qu'on vienne à cette question. Comment expliquer qu'on ne trouve ce genre de vestiges et dans cette quantité-là que sur une surface extrêmement limitée, somme toute, et par, semble-t-il, tout pont coupé avec d'autres cultures, et qui plus est, sans habitat à proximité. Donc tout ça, évidemment, pose problème. Dès 1926, l'abbé Breuil avait remarqué qu'un certain nombre des outils qu'on lui avait présentés ne ressemblaient ni dans leur forme, ni dans leur technique, ni dans l'utilisation éventuelle qu'on aurait pu en faire à ce à quoi il avait pu être habitué lui-même dans le matériel archéologique qu'il avait si souvent exhumé. Et puis, la même année, c'est André Vaison de Pradène qui disait, je cite, « Les os provenant soi-disant, on va dire prétendument, d'une même couche et qui par conséquent quand on devrait avoir la même patine, ont les aspects les plus disparates. » Vous voyez qu'encore une fois, une grande partie des critiques qui sont adressées au site de Glozel sont des critiques liées au caractère assez disparate du matériel archéologique exhumé. Alors, pour ce qui est des tablettes, vous nous avez répondu, Marie Labarrère-Delorme. Vous nous avez dit qu'elles avaient été cuites, mais pas de façon très
pas
prolongée. Voilà, exactement.
Enfin, pas beaucoup.
Néanmoins, alors là encore, la présence de ces végétaux frais, la présence d'éléments textiles modernes, etc., ont été dans le sens de la thèse de la supercherie, de l'imposture, du canular, que sais-je. J'aimerais vous dire quand même que dans cette affaire, si maintenant une sorte de consensus semble s'être fait jour au sein de la communauté historique pour admettre qu'il s'agirait au mieux d'un site extrêmement hétéroclite et au pire d'une véritable supercherie, un certain nombre de chercheurs tiennent bon, et je suis ravi d'en avoir une parmi nous aujourd'hui. C'est Mathieu qui nous dit par Internet que l'archéologue américaine Alice Gerard a écrit un livre qui s'appelle « Bones of Contention », dans lequel elle met en lumière, dit-il, les magouilles de ceux qui ont tout fait pour discréditer Glozel. Et elle apporte, nous assure Mathieu, dans ce livre, des éléments susceptibles d'expliquer le mystère de Glozel, et donc qui devraient faire grand bruit, lorsque cet ouvrage sera publié en France, c'est-à-dire d'ici quelques mois, semble-t-il, ce sera aux éditions Le Temps Présent. Merci à Mathieu de cette précision. Vous voyez que vous qui vous plaigniez il y a un instant, Marie Labarrère-Delorme, vous me disiez ça avant que ne commence l'émission, d'une sorte de dissipation peu à peu, d'une sorte d'évanouissement progressif de la querelle, vous allez bientôt bénéficier de soutien inespéré et important. L'affaire Glozel est loin d'être terminée, l'énigme n'est pas close et vous allez, si vous le voulez, répondre à un certain nombre des questions que j'ai donc soulevées à l'instant.
Le dossier brûlant du site de Glozel en question cet après-midi sur Europe 1.
Il y a beaucoup de réactions, bien entendu, pour attaquer les mandarins qu'il ne faudrait pas contredire sous peine d'être classés de fantaisistes. Évidemment, vous savez qu'avec l'affaire d'Alésia, je suis moi-même confronté assez souvent à cette espèce de pensée obligatoire et institutionnelle. Et donc, je sais à quel point les institutions et un certain nombre de départements de recherche, etc., disposent de moyens de pression. Mais ça n'est pas parce que tous les grands professeurs sont contre Glozel que pour autant Glozel est un site authentique. Admettez quand même qu'il faille un peu creuser la question. Une question de Pierre, par ailleurs, Marie Labarrère-Delorme, Pierre qui nous demande le rapport avec les grottes de Châtel-Perron qui se trouvent à quelques dizaines de kilomètres seulement de Glozel dans la vallée de la Bèbre.
Le Châtel-Perronien est tout de même une culture beaucoup plus ancienne.
Oui, c'est beaucoup plus ancien.
Donc,
on est au paléolithique.
Personnellement, je ne la rattacherai pas.
D'accord.
Enfin, pour le cas de Glozel. Hein.
Alors, venons à toutes nos affaires. D'abord, la première question qui me vient à l'esprit, et ça ne fait pas partie des objections que j'ai émises il y a quelques minutes, la première question c'est pourquoi, quel aurait pu être l'intérêt de personnalités comme Capitan, comme Breuil, comme Vaison de Pradennes, etc., à critiquer la thèse du docteur Morlaix et à émettre d'emblée, dès la fin des années 20, les plus grandes réserves sur le site de Glozel.
Oui, je crois que pour comprendre, il faut revenir à ce qui suit la fouille directement. Bon, très tôt est venue sur le terrain Mademoiselle Picandet, directrice de l'école de Ferrières-sur-Sichon, qui a fait un rapport à l'inspecteur d'académie et qui a vu les objets anciens et qui disait à ce moment-là que la fosse ovale dont elle voyait les murs brillait de mille feux. Cette malheureuse Mademoiselle Picandet, qui était quelqu'un de très honnête, s'est trouvée par la suite déplacée et déclassée, puisqu'elle est devenue adjointe à Saint-Hyor ou quelque chose comme ça. Bon, c'est un dégât collatéral de l'affaire,
ça commençait bien, oui.
De l'affaire de Glozel. Mais tout de suite sont venus Vip et Clément, qui sont venus littéralement saccager la fosse ovale pour envoyer des objets au docteur Capitan, qui a reçu donc un gros colis. Et Capitan a d'abord été très intéressé par les objets de Glozel, mais il s'est heurté à Morlaix, parce qu'il souhaitait que Morlaix lui prépare un rapport à envoyer aux instances et qu'il signerait lui-même. Et comme Morlaix n'a pas voulu, eh bien l'affaire a commencé à mal tourner à partir de là. Et alors, les archéologues, ensuite, se sont situés très rapidement au sujet de l'écriture. Bon, à peu près tous, parmi les gloséliens, estiment qu'il s'agit du néolithique final. Les anti-gloséliens disent que ce n'est pas possible qu'il y ait pu y avoir une écriture et de la poterie aussi ancienne que le néolithique final.
Dites-nous quand même si cette écriture, certains arrivent à la décrypter ou à en décrypter des fragments.
Il y a plusieurs tentatives de déchiffrement, dont la mienne. Bon, mais je dirais que quand je l'ai faite en 1990, je n'étais pas archéologue encore à l'époque. Je ne renie pas du tout ce que j'ai fait maintenant, je le reprendrai peut-être autrement, mais dans ma naïveté, j'avais intitulé cela « La première écriture de la préhistoire occidentale ». Oui. Alors évidemment, c'est mal tombé, c'est très mal tombé. Bon, les grands archéologues...
Quand vous dites c'est mal tombé, pour les gens qui ne seraient pas très au fait de tout ce genre de querelles, ça veut dire que vous avez jeté un énorme pavé dans la mare universitaire.
Dans mon innocence, tout à fait. Et mes écrits, je l'ai découvert, ça c'est très amusant, par le livre de Madame Voisenat, qui est une ethnologue, a fini à la direction donc, de l'archéologie, dans le dossier de ceux qui sont un peu fous, quoi. Voilà.
Des illuminés.
Des illuminés, voilà. Bon.
Alors, parlons peut-être de ce caractère très hétéroclite du matériel archéologique trouvé à Glozel. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des objets de nature, d'inspiration très différentes tout de même.
Oui. Oui, tout à fait.
Et d'époque, d'après ce que disent les datations scientifiques.
D'après ce que disent les datations. Mais je pense, je vous expliquerai pourquoi on ne peut pas se fier à ces datations.
Mais expliquez-moi tout de suite, si vous voulez.
les premières datations, qui est de 1928 en gros, ont estimé qu'il s'agissait d'ossements anciens et du néolithique. Bon. Les datations qui ont commencé avec les travaux de Hugues Mackerel à partir de 1976... ont attribué des dates beaucoup plus récentes à tous ces objets. Des dates qui s'échelonnent entre 100 avant notre ère
et la période
jusqu'au 17e, 18e, même une tablette affectée au 20e siècle. Oui. Bon, personnellement, quand je vois un tube à ocre daté du 13e ou du 14e siècle, avec encore ce tube de l'ocre dedans, je me pose des questions. Je me dis, je ne vois pas quel usage on pouvait en faire à ce moment-là. Donc, il faut reprendre les choses.
Un tube à ocre, c'est donc un morceau d'ossement dans lequel on avait mis du pigment pour peindre
peindre.
En fait.
Et on a aussi des timbres à ocre, ce qui montre que les hommes de ce temps se faisaient des tampons sur la peau, un décor sur la peau. Dans ces conditions, mon opinion est que les datations ne collent absolument pas au matériel archéologique qu'on a là. Et pourquoi est-ce qu'on a une telle distorsion ? Parce que les gens qui ont fait cela sont des scientifiques honnêtes, bon, qui ont buté sur un problème. Le problème, je crois, il vient du fait que le terrain du Champ des Morts a été finalement...
Donc le lieu des découvertes ?
Oui, le lieu des découvertes a été bien occupé par des foyers successifs. Dans les tombes que l'on a, on a une tombe à inhumation, mais on a aussi une tombe à incinération. Bon, s'il y a incinération d'un corps à proximité, le corps est détruit, il faut 1000 degrés pour détruire un corps. Donc la zone, je dirais, encaissante du lieu d'incinération, forcément, s'il y a du matériel dedans, il en subit un réchauffement.
Bon.
La fosse ovale, qui est, elle, qui a eu trois périodes au moins, qui a été d'abord un lieu où il y a eu un feu très violent. Ensuite, après ce feu violent, un dallage a été posé et il y a eu une tombe. Et en travers de cette fosse ovale, il y a un four de verrier. Donc, successivement, il y a eu incinération, il y a eu four de potier, ou peut-être en même temps, four de potier et four de verrier. Vous imaginez aussi les températures qu'il peut y avoir à proximité. Donc je pense que tous ces éléments peuvent fausser les datations, sans compter les brûlis que les cultivateurs faisaient régulièrement.
Donc en fait, tous ces résultats scientifiques sur lesquels s'appuie une grande part de l'argumentation anti-glosélienne, selon vous, ne sont pas valides
pour des raisons objectives, et je pense qu'il faut trouver d'autres moyens pour dater.
Et alors lesquels ?
Alors les moyens pour dater, alors c'est d'autant plus grave qu'on n'a pas de stratigraphie à Glosel,
puisque tout a été
éventré.
Ce qu'on appelle la stratigraphie, c'est-à-dire une sorte d'étagement des couches archéologiques qui permet de dater l'époque de provenance de chaque objet. Là, en l'occurrence, ça a été fait dans un tel désordre qu'on ne peut pas. Donc, comment faire en un mot, parce qu'il nous reste très peu de temps.
Oui, en un mot, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est essayer de dater les éléments les uns après les autres, voir à quelle période correspondent les galets, à quelle période les tablettes. C'est un travail de fourmi où il faut procéder par statistique, et je pense que ça peut seulement nous faire avancer.
Eh bien, vous ouvrez aux nouvelles générations de chercheurs de véritables perspectives. Je pense qu'il y aura de nouveau dans l'avenir, parce qu'après une période peut-être un peu d'effacement, il y aura de nouveau une passion pour cette énigme de Glosel. Merci Marie Labarrère-Delorme d'être venue nous en parler avec toute la conviction que 25 années de recherche sur place vous ont prodigué. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end et nous nous retrouvons lundi.
Merci Franck.